Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes bien dans Factualité, l'émission des étudiants de l'UVSU. Je suis Corentin et j'ai le plaisir de vous présenter cette émission. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Eléa, Jeannette, Maëlys, Amélie, Jonathan, Laura, Timothée, Marion, Adrien et Charles. Alors, est-ce que tout le monde va bien ?
Très bien,
oui.
Très bien.
Ça va.
Parfait, parce que aujourd'hui on a une grosse émission. Et donc, on va commencer directement. Le 24 novembre 2020, la loi sécurité globale a été votée par l'Assemblée nationale. Eléa nous explique pourquoi cette loi fait tant polémique.
Effectivement, Corentin, l'Assemblée nationale a voté ce mardi l'article 24, ou autrement appelé la loi de sécurité globale. Cette loi vise à pénaliser la diffusion malveillante de l'image des policiers. Elle a été votée par 388 voix pour, 104 voix contre et 66 d'abstentions. Dès janvier, elle atterrira au Sénat. Le Premier ministre Jean Castex a saisi le Conseil constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité de cette loi. Mais cet article 24 est au cœur de nombreuses polémiques. En effet, de nombreux journalistes y voient une atteinte à la liberté d'informer. Dans un monde où les violences policières sont de plus en plus importantes, des manifestants sont dans l'incompréhension face à cette décision. Des milliers de personnes se sont d'ailleurs rassemblées le 21 septembre pour contester la loi. Nous pouvions lire sur les pancartes « On baissera nos téléphones portables quand vous baisserez vos armes ». Une manifestation devrait avoir lieu samedi, mais celle-ci a été interdite par les autorités. De nombreuses questions se posent alors quant à l'interprétation de cette loi. Les juristes se questionnent sur le terme « malveillant » présent dans l'article 24. Comment savoir si les intentions sont vraiment malveillantes ? Quelles sont les limites de cette loi ? Une chose est sûre, cette loi est controversée et de nombreux citoyens craignent des décisions plus autoritaires. Certains députés de La République En Marche parlent même d'une France qui devient, je cite, « un État autoritaire ».
Merci beaucoup, Eléa. Alors moi, j'ai une petite question, Eléa. Je voudrais savoir si cette loi a réellement une chance d'être retoquée par le Conseil constitutionnel, si jamais tu le sais, bien entendu.
Alors c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que cette loi porte un peu atteinte aux libertés fondamentales qui sont les valeurs principales de notre République et de la Constitution. Donc il y a des chances, mais je ne sais pas trop, il faudra qu'on voit ça en janvier.
Très bien, merci. Alors passons à la suite. Ce lundi soir, dans le centre de Paris, un camp de plusieurs centaines de migrants a été démantelé par les forces de l'ordre. Faute d'avoir pu bénéficier des dernières mises à l'abri liées au démantèlement du grand campement de Saint-Denis, les migrants avaient déposé leur tente sur la place centrale de la République. Jeannette.
Oui, en effet, dès 20h, les forces de l'ordre ont commencé à désinstaller une partie des tentes sous les huées des militants et des migrants. La scène a été filmée et a choqué plusieurs internautes à cause de la violence de certaines images sur lesquelles on peut apercevoir des policiers qui mettent des croche-pattes à des personnes qui s'enfuient en courant, qui arrachent des tentes alors qu'il y a des exilés dedans, ou encore qui bousculent des bénévoles et des journalistes. C'est finalement sous les tirs des gaz lacrymogènes et de grenades de désencerclement que quelques centaines de personnes ont été dispersées. Ils ont été laissés sur le carreau, mais eux aussi ont besoin d'un hébergement, surtout en pleine crise sanitaire, a déclaré un responsable de l'association Utopia 56, qui a aidé les exilés à installer 500 tentes sur cette place centrale de la capitale afin d'alerter les autorités de leur situation. La brutalité de certaines images de policiers maltraitant journalistes et manifestants et fait réagir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a déclaré dans un tweet « Certaines images de la dispersion du campement illicite des migrants, place de la République, sont choquantes. Je viens de demander un rapport circonstancié sur la réalité des faits au préfet de police d'ici demain midi. Je prendrai des décisions dès sa réception. » L'inspection générale de la police nationale a donc été saisie et devrait rendre sous peu ses conclusions au ministre.
Merci, Jeannette. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir avec... Oui, Jonathan.
Quand on voit cette seconde actualité et qu'on la met en relation avec la première, on voit bien que c'est très important que les forces de l'ordre n'aient pas le sentiment d'être invincibles, d'avoir le sentiment d'avoir tout permis. Et voilà, ça fait quand même réagir, quoi.
Oui, exactement. On sait aussi au lien avec ce qu'on appelle le premier passage où finalement on peut voir ce que pourrait donner une potentielle application avec ce que nous racontait Léa avec. Les différences, comment ça s'appelle, le flou juridique, à quoi ça pourrait mener, on pose bien des questions. Passons à Maëlys. La réouverture des cinémas, source d'espoir et d'inquiétude pour des établissements déjà fortement fragilisés. Et Maëlys va nous raconter cela.
Oui, en effet. Un soupir de soulagement national s'est fait entendre mardi soir lors de l'allocution présidentielle. En effet, la pression d'une perte de chiffre d'affaires conséquente dans ces mois cruciaux, entourant Noël, avait envahi les commerçants depuis quelques semaines, et plus particulièrement les cinémas. Le nouveau confinement, ajouté à un couvre-feu qui avait empêché nombre de leurs séances du soir, marquait ainsi la suite d'une période sombre et compliquée pour le monde cinématographique. Mais l'espoir d'une réouverture prochaine et d'un regain de fréquentation accoutumé en ces temps de fête a su réchauffer le cœur des directeurs de salles. De plus, la possibilité d'utiliser son ticket de cinéma comme dérogation au couvre-feu, si la séance venait à se terminer plus tard que les 21h imposées, leur permet de maintenir la sacro-sainte séance de 20h qui attire souvent une majorité de la clientèle. Alors on s'est demandé, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver à l'affiche lorsque nos salles obscures se réouvriront ? D'abord, comme lors du premier confinement, les films sortis peu de temps avant la fermeture des cinémas seront de nouveau diffusés. Seront de retour ainsi les films sortis la veille du 30 octobre, comme Garçon chiffon, premier film de l'acteur vedette de 10% Nicolas Maurice, ou encore ADN, sixième film de la réalisatrice indépendante Mae Wen. D'autres films, sortis quelques temps avant, vont ainsi se voir offrir la possibilité de continuer leur promotion. On pourra y voir le jouissif Adieu les cons, réalisé par Quentin Dupieux, dont la première semaine au box-office avait été couronnée de succès, avant d'être coupée net par les mesures de quarantaine. Toutefois, de nombreuses nouveautés ont aussi été annoncées, avec des films prometteurs, notamment du côté du cinéma francophone. Mandibule, nouveau projet de l'excentrique Quentin Dupieux, sera ainsi disponible dès le 16 décembre. Le suivons rapidement, Le discours de Laurent Tirard, qui revisite avec humour le thème du dîner de famille et C'est la vie, film touchant de Julien Rambaldi, qui traite de l'accouchement. Pourtant, si le cinéma français semble empli de promesses pour cette fin d'année, l'ombre des blockbusters américains plane et préoccupe nos distributeurs. De mastodontes hollywoodiens distribués par Warner sont ainsi attendus en cette fin d'année. Le premier, qui tire son histoire du roman culte de Roald Dahl, Sacrée Sorcière, remplit toutes les promesses d'un film familial qui saura attendrir les enfants comme leurs parents. Tandis que le second, Wonder Woman 1984, est attendu de pied ferme par les nombreux fans de super-héros. Deux films qui sauront donc réunir un large public, particulièrement dans cette période de vacances scolaires, ce qui inquiète les distributeurs français. Ils partagent ainsi la crainte d'un engouement particulier sur les films d'outre-Atlantique, du côté des salles comme des spectateurs, quitte à en oublier nos productions, fragilisant encore plus un milieu déjà frappé de plein fouet par la crise. On ne peut donc en conclusion que vous recommander de sortir voir des films, quels qu'ils soient, et de ne pas oublier nos créations nationales qui auraient bien besoin d'un coup de pouce en ces temps compliqués.
Merci beaucoup Maëlys. Alors du coup, moi, je vais directement te poser une question. C'est qu'est-ce que tu vas regarder directement toi ? Qu'est-ce que tu as envie de regarder à la sortie du confinement parmi ce qui est proposé ?
Alors de mon côté, j'avais manqué Adieu les cons de Quentin Dupieux, qui est apparemment très très bien. Pas de Quentin Dupieux,
D'Albert Dupontel.
Ouais, c'est ça, de Dupontel. C'est Mandibule de Quentin Dupieux. Garçon chiffon de Nicolas Maurice, qui était sorti avant. Et je pense que à recommander, il y a aussi Mandibule, qui peut être très bien, comme très étonnant. Mais c'est du Quentin Dupieux, donc je pense que ça sera très intéressant. Voilà, c'est déjà bien.
Alors, Adrien, est-ce qu'il va nous proposer aussi son coup de cœur à la sortie du confinement ?
Alors, c'est pas vraiment un coup de cœur, mais c'est très intéressant le sujet sur le cinéma, puisqu'on peut se poser la question, est-ce qu'avec le confinement, finalement, les Français, ou même les fans de films, n'ont pas pris l'habitude d'aller maintenant sur Netflix, sur Amazon Premium, sur Disney+, pour finalement aller voir même des séries ou les films directement ? Évidemment, je pense à Mulan, qui est sorti directement sur Disney+, et non au cinéma.
Ouais, on avait vu à la sortie du premier confinement que la reprise dans le cinéma avait été plutôt longue. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres je ne sais pas s'il sera encore en salle, mais j'avais vu le Drunk avec Mads Mikkelsen et de Thomas Vinterberg au cinéma, qui j'ai trouvé super. C'est le dernier film que j'ai vu, je crois, avant qu'on aille se reconfiner. Et je le recommande vraiment à tout le monde. Exceptionnel ce film.
Oui, c'est un très bon film, je le recommande aussi.
Et bien alors, c'est tamponné par factualité, Drunk. Alors, on va passer maintenant à Amélie, qui qui va nous raconter comment les scientifiques ont trouvé un exosquelette, ont trouvé faire un exosquelette pour aider les personnes en fauteuil.
Et oui, je vous assure, ce n'est pas une blague. Wondercraft a commercialisé le premier exosquelette autonome. Baptisé Atalante, il permet aux personnes paraplégiques de pouvoir remarcher à nouveau. Cet exosquelette s'utilise sans béquille ni aide d'appui, c'est-à-dire que la personne n'a pas besoin de s'appuyer sur un meuble ou un objet pour se déplacer avec. Il permet de recréer un processus de marche réel en s'inspirant des déséquilibres naturels du corps humain en marche. Il aura fallu attendre 5 années pour parvenir à l'élaboration de ce robot, dont les premiers essais concluants datent de 2018. Loin d'être un prototype, Atalante est disponible sur le marché européen depuis 2019 et est reconnu comme un dispositif médical. Il coûte environ 150 000 euros et équipe 6 établissements de santé en France et au Luxembourg. C'est le cas de l'hôpital Albert Chenevier de Créteil qui s'en est équipé il y a moins de 2 semaines. Je ne sentais pas ma jambe quand je suis sur l'appareil, je la sens qui travaille, raconte Pierre, patient qui a testé l'exosquelette. Sa rééducation à la marche est en effet assistée par cette machine. Pour que l'appareil se lève, le patient doit faire un mouvement en avant qui est reconnu par un capteur. Il n'y a donc pas de risque que l'appareil se lève de manière inopportune. Grâce à cette innovation, paraplégiques, victimes d'AVC et d'autres pathologies lourdes ont espoir de bénéficier d'une rééducation plus efficace. La société Wondercraft ne s'arrête cependant pas à cette victoire et prévoit d'ores et déjà d'entrer sur le marché américain. En attendant la certification requise, un exosquelette personnel plus léger qu'Atalante est également en projet. Un véritable pas en avant technologique et médical.
Merci beaucoup Amélie. On va passer directement à Jonathan. Le 24 novembre dernier, un mystérieux objet métallique non identifié a été découvert dans le désert de l'Utah par un hélicoptère. Jonathan.
Exactement, mon bon Corentin. Information pour le moins insolite qui ravira nos auditeurs fans d'OVNI, d'extraterrestres ou les plus curieux d'entre nous. Mardi, on a appris qu'un hélicoptère de la sécurité publique de l'Utah, dans les États-Unis, a fait cette étrange découverte. Mobilisé à la base pour dénombrer le nombre de mouflons d'Amérique de cette région, la sécurité civile a eu droit à une petite surprise. Les patrouilleurs ont en effet découvert une grande structure métallique en plein milieu du désert. C'est une des choses les plus étranges que j'ai rencontrées là-bas au cours de toutes mes années de vol, a témoigné le pilote d'hélicoptère Brett Hutchkin. Ce monolithe en métal chromé et brillant mesure plus de 3 mètres et semble être planté au sol depuis toujours. Alors, les plus cinéphiles des internautes américains ont fait remarquer la ressemblance de cet objet avec une scène culte. Vous ne voyez pas ? Souvenez-vous de cette scène du film 2001 L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Un grand monolithe noir avait permis à l'humanité d'évoluer plus rapidement. Cette découverte fait bien entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux américains et une enquête est en cours. Mais pour le moment, le mystère reste entier. Si certains parlent d'extraterrestres, d'autres font remarquer la ressemblance de la structure avec le style de l'artiste John McCracken. Cette bizarrerie fait aussi penser à une affaire similaire. En 2001, tiens donc comme par hasard, un étrange monolithe était lui aussi apparu à Seattle avant de disparaître sans laisser de traces. A priori, les autorités ont écarté la piste extraterrestre, mais comme vous le savez mon cher Quentin, mieux vaut prévenir que guérir. Ainsi, l'État de l'Utah a rappelé dans un communiqué qu'il était, je cite, « interdit d'installer sans autorisation des structures ou des œuvres d'art sur des terres gérées par le gouvernement fédéral, peu importe la planète d'où vous venez. »
Merci beaucoup, Jonathan. Très bonne chute. Alors, est-ce que, comment ça s'appelle, et toi, tu y crois à cette version, comment ça s'appelle, ou quoi, des martiens, peut-être, nous aura apporté un monolithe?
Et pourquoi pas, mon cher Quentin. Mais en tout cas, ils sont prévenus, maintenant c'est interdit.
Elon Musk est devenu le deuxième homme le plus riche du monde devant Bill Gates. Mais comment en est-il arrivé jusque-là, Laurent ?
Eh oui, bonjour Quentin. 7 milliards en un jour, vous y croyez ? Eh bien, moi non plus. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé au PDG de Tesla ce lundi 23 novembre. Ainsi, Elon Musk devient le deuxième homme le plus riche du monde selon le classement de Bloomberg, un classement des 500 plus grandes fortunes du monde. Avec une fortune qui vient juste d'atteindre 128 milliards de dollars, l'homme de SpaceX a de quoi se réjouir. Et ceci grâce à des actions en bourse qui se sont envolées de plus de 500%. Tout cet argent provient de sa plus grande entreprise, j'ai nommé Tesla. Une entreprise automobile qui aujourd'hui à elle seule vaut plus de 500 milliards de dollars. Et même si sa place reste incertaine au niveau des actions, l'homme de 49 ans a quand même réussi à dépasser Bill Gates. On peut donc dire que l'homme aux voitures électriques ne roule plus sur les routes, mais bien sur de l'or.
Merci beaucoup, Laura. Timothée, Timothée, tu vas nous raconter cette grande déception chez les joueurs de PlayStation et de Xbox.
Eh oui, en effet, Corentin. Alors qu'elles sont sorties respectivement les 10 et 19 novembre 2020, les Xbox Series X et S et la PS5 connaissent en France d'importants problèmes de pénurie. En effet, à cause de la crise sanitaire, l'achat en magasin de produits ne correspondant pas à de la première nécessité a été interdit, empêchant donc les joueurs d'acheter les nouvelles consoles directement en magasin. Cependant, la vente en ligne et le retrait de commandes en magasin sont restés autorisés. Ainsi, les joueurs impatients d'avoir les nouvelles consoles entre leurs mains les ont commandées massivement sur les sites marchands tels que Amazon, la Fnac ou Micromania et les anciennes généralistes. Mais ces commandes massives ont rapidement créé des pénuries. Aujourd'hui, à chaque réapprovisionnement, les stocks renouvelés de consoles sont vides seulement quelques minutes après leur réapparition sur les sites de vente. En parallèle, des personnes ayant réussi à se les procurer, ou le prétendant, proposent les consoles à des prix délirants, parfois le quadruple du prix original, afin de gagner de l'argent sur l'impatience de certaines personnes. Des offres pareilles ont ainsi été vues sur Le Bon Coin ou d'autres sites de vente entre particuliers. Les retards sont tels que les consoles ne pourront pas être livrées pour Noël pour les personnes les ayant commandées. La majorité des joueurs Xbox et PlayStation va donc devoir faire preuve de patience jusqu'à l'année prochaine, très probablement.
Merci beaucoup, Timothée. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Peut-être que tu le sais, mais est-ce que, alors, on parlait de grande déception, finalement, c'est pour obtenir ces consoles de jeu, mais est-ce qu'au moins le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que l'innovation est plutôt grande?
En effet, l'innovation est plutôt grande parce que les consoles devraient passer notamment aux 120 FPS, donc aux 120 images par seconde. La qualité devrait être grandement améliorée et des nouveaux jeux bénéficiant de ces nouvelles qualités devraient sortir. Et on a déjà vu de très belles exclusivités comme Demon's Souls sur PS5, Spider-Man, etc. Et le meilleur est à venir.
Très bien, merci Timothée. Vous écoutez Factualité, l'émission des étudiantes et des étudiants de l'UVSQ. Assassin's Creed Valhalla, étrangement censuré au Japon. Marion nous explique pourquoi.
En effet, je te remercie, Corentin. Disponible depuis peu, Assassin's Creed Valhalla n'est pas sorti dans la même version pour tout le monde. Pour permettre sa diffusion au Japon, Ubisoft avait fait savoir que certains éléments du jeu seraient censurés par rapport aux versions occidentales. Moins de démembrements durant les combats, des personnages féminins seins nus recouverts et des scènes montrant des décapitations ou de la torture modifiées. Les joueurs japonais se sont quand même mis en colère contre l'éditeur français lorsqu'ils se sont rendus compte que le jeu comportait plus de censure que prévu. En effet, le jeu en version japonaise n'a pas d'effet de sang lors des combats, même si l'option est activée. Ce qui est étrange, puisque la version japonaise de Assassin's Creed Odyssey, qui est donc l'ancien jeu, comportait, elle, ce genre d'effet. Certains joueurs se sont plaints de l'absence de cet indice visuel, car celui-ci était utile lors des combats. Ubisoft au Japon a fait savoir sur son blog que cette décision a dû être faite afin que le jeu puisse être accepté par l'organisation japonaise Sero et que ces derniers ont même été consultés. Cependant, ce même Sero a affirmé dans un communiqué qu'ils n'ont jamais été contactés par Ubisoft à ce propos. De plus, Assassin's Creed Valhalla est déjà classé Sero-Z au Japon, l'équivalent de notre PEGI 18, la plus haute classification possible donc, ce qui rend l'absence des effets de sang d'autant plus illogique. Dans la foulée, Ubisoft a publié un nouveau communiqué pour présenter ses excuses et évoque un problème au sein de l'entreprise qui devrait être résolu à la suite d'une enquête interne dont les résultats seront bientôt connus.
Merci beaucoup. Marion, peut-être des réactions un peu plus sur les jeux vidéo, Assassin's Creed? Oui, Jonathan.
Ouais, juste petite question. Est-ce que tu sais si ça a eu des impacts sur les ventes au Japon?
Marion?
Alors, je n'ai pas du tout de chiffres à te donner, malheureusement. Mais quand le jeu est sorti, oui, il y a eu beaucoup de ventes parce que beaucoup d'attentes. Le jeu a beaucoup été teasé, si j'ose dire. Mais les ventes ont sûrement ralenti vu que du coup, il y a eu beaucoup de bouche à oreille par rapport justement à cette censure. Après, à voir dans les prochains mois si ce problème va être rectifié ou non et voir si cela va stopper du coup ou ralentir les ventes de ce jeu.
D'accord, je te remercie.
Merci beaucoup, Marion. Passons à la télé. Le vendredi 27 novembre, la première chaîne de la télévision française TF1 va diffuser la première partie de la finale de Koh-Lanta, Les Quatre Terres. L'occasion de revenir sur son succès d'audience, le phénomène qu'il crée, et sur l'envers du décor grâce aux explications du mixeur de l'émission Fabrice Chantôme, mais surtout grâce à Adrien.
Bonjour Corentin. Koh-Lanta est peut-être le jeu d'aventure de 40 jours le plus célèbre de l'audiovisuel français. Depuis 2001, le jeu, composé d'épreuves et de survie dans un camp, est diffusé à l'antenne chaque année. Comment peut-on l'expliquer ? Tout d'abord, l'audience est très satisfaisante. Entre le 28 août et le 20 novembre, Koh-Lanta est regardé, selon Médiamétrie, par au moins 5 millions de téléspectateurs. Ensuite, Koh-Lanta crée sans aucun doute un phénomène autour de lui. Les réseaux sociaux le montrent chaque vendredi. À la fin de chaque épisode, les Instagrammeurs peuvent retrouver le présentateur Denis Brognard en live avec l'éliminé. Aussi, les candidats n'hésitent pas à commenter l'émission, même leurs propres gestes. Par exemple, les finalistes, parmi d'autres, Brice et Dorian, sont deux jeunes candidats très populaires. Ils rappellent souvent leur amitié sur Twitter avec une image tirée de l'épisode diffusé à l'écran. À l'inverse, les candidats se font critiquer par les fans de l'émission, même si la recherche de la critique n'est pas souhaitée par les monteurs. Justement, intéressons-nous à l'envers du décor. Il y a la mise en place d'une équipe importante et le montage dure longtemps. Finalement, Koh-Lanta ne serait plus présent à l'antenne sans un bon mixage et une bonne réalisation. Selon Fabrice Chantôme, mixeur de l'émission, c'est comme du cinéma. Un sujet, il nous raconte. Je cite. Il y a une présence d'une équipe de tournage, cadreur, des perchemans au son, et un journaliste qui interviewe les candidats pour réagir sur l'événement. Il y a 9 caméras pour les épreuves sportives et un enregistrement multipiste. Fin de citation. Koh-Lanta représente donc, selon Fabrice Chantôme, une véritable, je cite, interaction entre la journaliste éditoriale et une équipe de monteurs son. Fin de citation. Rôle important également, le son omniprésent dans ce jeu. C'est un travail minutieux. En effet, Fabrice Chantôme nous explique, je cite, qu'un monteur son va activer les pistes et les micros qui correspondent et va ajouter des ambiances de la nature qui ont été enregistrées sur place. Le mixage consiste alors à notamment renforcer les bruits, filtrer pour égaliser et à incorporer la voix off de Denis Brognard sur les images. Fin de citation. Aujourd'hui, Koh-Lanta est considéré comme l'un des meilleurs programmes qui n'ait jamais existé. Fabrice Chantôme nous a également confié que cette expérience change la vie des candidats. Les téléspectateurs ont donc décidé aussi de continuer l'aventure et leur sentence, comme dirait notre cher Denis Brognard, est irrévocable.
Merci beaucoup, Adrien.
Si j'ai donné envie de regarder la finale le 27 novembre...
Ah bah on aura tout gagné, en effet. Alors du coup, on va terminer avec le meilleur, peut-être. Sûrement, je ne sais pas. Avec Charles et sa chronique surprise.
Oui, salut Corentin. Alors, moi, c'est une petite nouvelle, là, une news. Samedi dernier, le producteur de musique Michel a été agressé dans son studio par 3 policiers en service. Une nouvelle bavure policière qui vient rajouter une énième controverse aux forces de l'ordre françaises. Alors qu'il est rentré dans sa maison de production, Michel a été l'objet d'un contrôle de police plutôt violent. Ces derniers ont illégalement suivi le producteur dans sa propriété pour le maîtriser et le frapper à 3 personnes contre un seul homme apeuré. Ce que les policiers ne savaient pas, c'est qu'ils étaient filmés par une caméra de sécurité. Et les vidéos ont complètement démenti leur version, qui était que Michel avait tenté de prendre leurs armes et les avait frappées. Sur la vidéo en question, nous voyons que l'homme s'est fait attraper par les policiers alors qu'il était déjà dans son établissement et frappé à main nue tout en étant insulté d'insultes racistes. Ce soir, l'enquête a été classée sans suite, mais l'IGPN a été saisi. Michel, lui, va engager des poursuites judiciaires contre les policiers, mais reste en état de choc. Cette nouvelle bavure rentre dans la controverse de la loi sécurité globale et des problèmes qu'elle implique.
Merci beaucoup, Charles. Et en effet, ça rejoint ce qu'on disait au départ avec la loi sécurité globale. Est-ce que les gens voudraient réagir, peut-être en faisant le lien par rapport à tout à l'heure?
Moi, j'aimerais bien réagir. C'est vrai que quand on voit ce genre de soucis, on comprend vraiment la nécessité des fois de filmer les forces de l'ordre parce qu'il y a quand même énormément de soucis actuellement. Donc on peut comprendre les manifestants et on peut comprendre que les gens ne soient pas d'accord avec cette loi.
Exactement, exactement. On va terminer cette émission sur cela. Et je dis bien sûr merci à mes chroniqueurs et bien entendu au revoir à tout le monde.